1er septembre 1939, Radio Varsovie annonce l'invasion de la Pologne.
14 juin 40, Radio Berlin annonce l'entrée des troupes allemandes dans Paris.
Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt.
15 août 1945, Hirohito parle exceptionnellement à la radio japonaise pour annoncer la capitulation.
À ces moments, et entre ces deux périodes, la radio jouera un rôle capital dans la guerre. Information, propagande, appel à la résistance et outils de liaison.
Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Honneur et patrie.
Les premières ailes de la cité scolaire Paul Scarron de Ciel-Guillaume vous proposent sur votre radio les ondes dans la résistance.
En 1939, quand la guerre éclate, la radio est le moyen de communication qui allie le mieux modernité et accessibilité. 5 millions de postes en France et 19 millions d'auditeurs potentiels sur 40 millions d'habitants. Les deux grandes stations populaires sont alors le Poste Parisien et Radio Cité.
Mes chers auditeurs, voici le concert du bonhomme en bois qui vous est offert régulièrement à ce poste chaque semaine par la plus importante maison de meubles, les Galeries Barbès, la première marque française. Ce concert vous est bien entendu présenté par votre vieil ami, le bonhomme en bois.
Je suis le bonhomme en bois des fameuses Galeries Barbès. On m'adore dès qu'on me voit, venez me voir pour voir Barbès. Bois, bois, je suis le bonhomme en bois.
Nous sommes chers auditeurs à Barcelonnette et nous allons tout de suite vous donner les péripéties de la course depuis le départ de Digne.
Avant de vous dire bonne nuit, Jean Blanc va vous chanter dans quelques instants une de ses plus gentilles chansons, Tout ça pour elle. Mais avant, un mot, un seul, à tous ceux qui aiment bien manger, économiquement, avec une boîte de pâtes aux œufs frais du Père Lustifru, les pâtes qui ne collent jamais. Vous préparerez, madame, 6 plats au lieu de 4, car les pâtes Lustucru ont cette qualité unique de tripler à la cuisson. Quelle économie!
Mais les heures sont graves. En 1938, Alex Viro, Bruitbot en fond sonore, fera vivre à plusieurs millions d'auditeurs en direct par téléphone, sur Radio Cité, l'annexion de l'Autriche par les nazis. La radio est alors au cœur de la vie familiale, dans le salon ou la salle à manger. On peut entendre des programmes du monde entier, beaucoup de chansons, de sketchs, de divertissements, de sports, de la publicité. Et puis, le 17 juin 1940...
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
À partir du 25 juin, les radios s'arrêtent. Allemands et pétinistes occuperont les ondes avec Radio Paris et Radio Vichy. L'esprit de la résistance et la contre-offensive radiophonique viendront alors d'ailleurs. Ce sera de Londres et de Brazzaville.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
67 fois, le général de Gaulle interviendra depuis Londres, ce qui le fera surnommer le général micro. Il est vrai que déjà dans son livre, Vers l'armée de métier, il prônait l'utilisation de la radio comme arme de guerre. Le 19 juin, une émission Ici la France est programmée de 20h30 à 20h45 avec Jean Masson, puis Pierre Bourdan, Jacques Duchesne constitue une équipe opérationnelle dès le 14 juillet.
Plusieurs programmes de soirée s'installent. Un bulletin d'information de 10 minutes à 20h15, suivi pour 5 minutes de Honneur et Patrie, lancé le 18 juillet par Maurice Schumann, et précédent, Les Français parlent au français, dont le nom apparaît le 6 septembre. Les programmes proposent aussi aux auditeurs des causeries, témoignages, reportages, chroniques, chansons ou slogans pendant une demi-heure.
En 1944, les émissions en français occuperont plus de 5 heures d'antenne. Le contrôle anglais s'exerce sur les émissions, on peut parler de censure britannique. D'autant que les relations ne sont pas toujours faciles entre De Gaulle et les Alliés. En mai 1944, De Gaulle réclame un contrôle commun avec la fusion de Honneur et Patrie et Les Français parlent le taux français.
Le général De Gaulle utilise également la radio londonienne comme un instrument de reconquête spirituelle et d'appel à l'engagement. Il appelle à plusieurs reprises les Français à se mobiliser. Mais la question importante est de savoir si la radio était écoutée. Avec nous dans le studio, André Thiersault et l'historien Jacques Chénier. André Thiersault, vous aviez quel âge au début de la guerre ?
En 39, j'avais 12 ans.
Vous habitiez dans la région, mais où exactement ?
À Selboine, un petit village là, pas très loin d'ici.
Comment êtes-vous entré dans la résistance ?
Ça s'est fait normalement avec mon grand-père qui avait fait la guerre de 14. Il y avait maman, mon père, ma grande-tante qui est d'ailleurs décédée à Ravensbrück. Et moi et mon frère, ça s'est fait par Monsieur Paysan de l'Orne.
Et est-ce qu'il y avait un réseau bien organisé ?
Oui, c'était le réseau BOA, Bureau Auxiliaire Aérien. Alors c'était pour les parachutages et moi je faisais agent de liaison.
Jacques Chénier, votre point de vue sur l'écoute de Radio Londres ?
Radio Londres, c'est la BBC. Et la BBC, il y avait les émissions en anglais et puis il y avait les émissions en français. Il y avait deux types d'émissions en direction de la France. Il y avait Honneur et Patrie et il y avait Les Français parlent aux Français. Donc deux types d'émissions. Le général de Gaulle, par exemple, a très peu parlé, contrairement à ce qu'on peut penser, à la radio. Par contre, il y avait des émissions qui allaient en direction donc des Français. Premier problème, pour connaître l'influence, tout le monde n'avait pas l'électricité à l'époque. On oublie toujours un petit peu que si dans les villes, si dans le centre des bourgs, l'électricité était arrivée, en campagne et dans la périphérie des villages, elle n'était toujours pas arrivée. Pour prendre que l'exemple d'Asselboine, par exemple, la totalité de la commune n'a été raccordée à l'électricité qu'entre 1952 et 1955. Donc c'est quand même très récent. Donc il faut imaginer que tout le monde n'a pas l'électricité. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les postes de radio, tout le monde n'en a pas. C'est un appareil qui est cher, qui est donc finalement, qui est limité. D'autre part enfin, tous les postes de radio sont déclarés. Ce qui signifie qu'en préfecture, l'État français connaissait exactement l'état du parc de postes de radio. Donc toute personne qui écoutait la radio pouvait être observée, pouvait être espionnée. Et les Allemands savaient très bien le faire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une évolution dans la guerre. Il est bien évident que les événements en 1940, si vous voulez, ne vont pas attirer toutes les personnes qui peuvent écouter la radio, mais à partir de 1943, oui, l'influence est de plus en plus importante. Donc là, ça joue dans la durée. Alors si on raisonne en 1940, très peu de gens écoutent la radio de Londres. En 42, il y en a davantage. En 44, beaucoup de gens l'écoutent.
Quel contenu pourrait être entendu sur Radio Londres et quels étaient les objectifs ?
Alors les contenus, c'est assez compliqué aussi, ça, parce que d'abord, au départ, il faut bien penser que les Français de Londres ignorent totalement ce qui se passe en France au niveau de la résistance. Il faut attendre pratiquement l'arrivée de Jean Moulin à Londres pour que le général de Gaulle et le BCRA, Bureau Central de Renseignement et d'Action, connaissent la situation de la résistance en France. Vous savez que l'appel du 18 juin, contrairement à ce que beaucoup racontent, n'a pas été un appel à la résistance civile, mais un appel à la résistance militaire. C'est un petit peu différent. Donc, il faut attendre véritablement le déclic, c'est le 11 novembre 1940. Le 11 novembre 1940, il y a une manifestation spontanée d'étudiants à Paris et dont l'impact est relativement important. Et c'est à ce moment-là qu'à Londres, ils prennent conscience véritablement qu'il se passe quelque chose. Donc, dans un premier temps, les informations de Londres vont en direction pour donner des informations très précisément sur ce qui se passe. C'est de la contre-information par rapport à Vichy, par rapport aux Allemands, mais c'est aussi une information pour la guerre. C'est une information qui est contrôlée par les Britanniques. La partie, si vous voulez, résistance n'apparaîtra que beaucoup plus tardivement. Donc les contenus sont des contenus essentiellement politiques, militaires et des conseils à l'occuper.
Parmi les messages politiques, les appels à des actions en France. Ainsi, pour le 1er janvier 41.
Honneur et patrie, voici le général de Gaulle.
Le 1er janvier prochain, en observant l'heure d'espérance, en s'abstenant de paraître au dehors, de 14h à 15h pour la France non occupée, de 15h à 16h pour la France occupée, en faisant pendant ces 60 minutes le vide dans les rues de nos villes et de nos villages, tous les Français montreront à l'ennemi qu'ils ne le tiennent que pour l'ennemi. Par cet immense plébiscite de silence, la France fera connaître au monde qu'elle ne voit son avenir que dans la liberté, sa grandeur, que dans l'indépendance, son salut, que dans la victoire.
Puis la radio va demander aux Français de faire disparaître les pièces en nickel de 5 sous dont les Allemands ont besoin pour leur industrie. Puis vient la campagne des V.
Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. Et n'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, V. Sur les murs et sur les pavés, faites des V. Mais vous pouvez faire en des V les doryphores. Et sans remords, et sans danger, vous sifflerez, vous chanterez V.
Le 1er mai 42, puis le 14 juillet, les Français sont invités en zone non occupée à se rassembler devant les statues de la République. La radio donne aussi parfois des messages très clairs aux Français pour qu'ils ne partent pas en Allemagne, au réseau de résistants et maquis.
Ne va pas en Allemagne, 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 ne va pas en Allemagne.
Allô, allô, maquis de la Haute-Savoie, maquis de la Haute-Savoie, écoutez bien, les consignes fraternelles que nous vous adressons en plein accord avec les autorités alliées. Primo, la mobilité dans les maquis est un élément essentiel de la lutte. L'augmentation des effectifs armés est certes plus que jamais souhaitable, mais elle ne doit en aucun cas diminuer votre mobilité. Mobilité qui, en cas de nécessité, doit vous permettre de changer complètement de région.
Le régime pétiniste et l'occupant allemand ont bien sûr cherché à développer des moyens afin de lutter contre l'influence de la BBC, comme le brouillage des fréquences, des coupures de courant, les lois d'interdiction d'écoute, la confiscation des postes d'écoute. Londres conseillera alors aux Français de se débarrasser de leurs vieux postes. Jacques Chénier.
Les Britanniques émettaient sur, je crois, des ondes moyennes, la BBC. Et donc, il suffisait de se brancher sur la même longueur d'onde et émettre des brouillages classiques. Donc, les Anglais ont répondu en augmentant la puissance de leurs émetteurs et en travaillant en ondes courtes. Ce qui faisait que pour les Allemands, ça était plus difficile. Mais ils se sont tout simplement branchés, je pense, si vous voulez, sur les radios britanniques au moment des émissions. Parce que ça ne marchait pas à longueur de journée. C'était à partir de 18h généralement que les radios apparaissaient. Ne pas perdre de vue non plus que les Français n'écoutaient pas que la radio britannique. Ils écoutaient par exemple Radio Sottens. qui était une radio suisse qui donnait beaucoup d'informations. À partir de 1941, certains arrivent même à se brancher sur Radio Moscou. On change, avec des antennes directionnelles, on change la direction de réception. Et puis après, avec l'arrivée de la première franche radio française, qui est Radio Brazzaville, là, à ce moment-là, les gens ont davantage de possibilités. Alors, les Allemands vont jouer sur les postes de radio. Alors, la loi, elle est simple, c'est les Allemands qui l'imposent. Dans un premier temps, en zone occupée. Les Allemands ne veulent pas que les Français occupent ceux qui écoutent la radio. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des lois coercitives, c'est-à-dire des amendes, des emprisonnements. Voilà, c'est ça qui est fait. Donc, dès que vous écoutez la radio, vous êtes pris ou dénoncé, vous allez en prison. À partir d'un certain temps, ils vont confisquer les postes de radio. Et le gouvernement français va aller dans ce sens-là, lui aussi, en émettant des lois dès 1940 qui interdisaient d'écouter la radio, tout simplement avec des amendes à la clé.
La propagande, la désinformation sont des armes importantes et de véritables joutes par les ondes. Oppose Radio Londres, du côté de la France libre, avec la subtilité et l'humour de Pierre Dac, pour contrer la radio de l'occupant, Radio Paris, sur laquelle sévit Philippe Henriot, ou de la Radio Nationale de Vichy, sur laquelle intervient Jean-Hérold Bacchi, qui, signalons-le au passage, avait fait ses débuts en radio pendant la guerre d'Espagne, avec Franco. Retrouvons ici quelques voix de Radio Londres. Jean Marin.
Pendant plus de 3 ans, vous et nous, le porte-parole de la France combattante et mes camarades du programme Les Français parlent aux Français, nous nous sommes retrouvés, tous les jours. De notre côté, nous n'inventions rien. Nous nous efforcions, dans la mesure de nos moyens modestes, aidés par le spectacle du superbe courage de nos vieux amis anglais, de vous dire, mais avec tout notre cœur, les raisons qui justifiaient votre espérance, qui justifiaient votre résistance à l'ennemi et aux instruments de l'ennemi. Souvent, mes camarades, mes amis et moi, nous nous sommes dit que malgré l'éloignement, nous vivions aussi près de vous que si nous avions vécu au milieu de vous, derrière vos volets, fermés sur l'ennemi. Toujours vous avez été nos modèles, nos seuls inspirateurs. Nous n'étions là que pour vous, mieux encore, nous n'étions là que par vous. Vous entendiez nos voix, c'était la vôtre qui dictait. La voix douloureuse mais toute puissante de la France, fidèle à l'honneur, fidèle à sa tradition et à ses alliances, semblable à elle-même dans le sacrifice, toujours à l'aise dans la grandeur.
Pierre Bourdon.
Nous comprenons très bien que Radio Paris, qui a essayé de bourrer le crâne de ses auditeurs depuis 3 ans et plus particulièrement depuis 6 mois, soit en proie à une juste fureur lorsque ses poulains, ou plutôt ses maîtres, se font battre.
André Gillois.
Les mots d'ordre qui, par les voies habituelles, vous seront communiqués clandestinement, coïncideront avec les appels lancés par le commandement suprême interallié. Aujourd'hui même, à Alvée, l'Assemblée consultative, où siègent les délégués de la résistance, ouvre sa session nouvelle en faisant un effort nouveau pour que toute l'aide possible soit apportée aux patriotes qui combattent sur le sol national.
Pierre Dac répondant à Philippe Henriot qui avait insulté son patriotisme et ses origines juives.
Laissez-moi vous rappeler, en passant, que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et d'autres avant eux sont originaires du pays d'Alsace, dont vous avez peut-être, par hasard, entendu parler, et en particulier de la charmante petite ville de Niederbronn, près de Haguenau, dans le Bas-Rhin. C'est un beau pays, l'Alsace, monsieur Henriot, où, depuis longtemps, on sait ce que cela signifie la France, et aussi ce que cela signifie l'Allemagne. Des campagnes napoléoniennes, en passant par celles de Crimée, d'Algérie, de 1870-71, de 14-18, jusqu'à ce jour, on a dans ma famille, moi y compris, monsieur Henriot, lourdement payé l'impôt de la souffrance, des larmes et du sang. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Alors, pourquoi ne pas nous dire ce que cela signifie pour vous, l'Allemagne ?
Adolphe, Adolphe, les épinards sont cuits. Adolphe, Adolphe, t'es en plein court-circuit. Depuis le temps que tu nous casses les pieds, c'est bien ton tour de te casser le nez. Adolphe, Adolphe, malgré ta Gestapo, je ne voudrais pas être dans ta peau. Ce qui t'arrive en vérité est soi-disant te vexer, la seule chose que tu n'es pas volé.
Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand.
On aurait pu aussi écouter Jean Oberlé, Pierre Lefebvre, Paul Boivin, Jacques Duchesne, Geneviève Brissot, Jean-Paul Granville, ou la voix d'Honneur et Patrie de Maurice Schumann. Avec le débarquement, le vent tourne et la radio suit les progressions des libérateurs. Henriot est abattu par des résistants le 13 juin 1944. Les radios de la collaboration se taisent les 17 et 18 août et le 22 novembre sera diffusée la dernière émission des Français parlent aux Français.
Si Radio Londres a joué un rôle capital comme voix de la France libre pendant la guerre, il ne faut pas oublier une autre voix qui venait de ce que le général de Gaulle avait dénommé dans son appel du 18 juin, l'Empire. C'est bien l'Afrique équatoriale française, de Brazzaville, du Congo, que va venir par les ondes la voix cette fois totalement indépendante et souveraine de la France libre. L'ingénieur Henri de Froyenne, Pierre-Philippe Desjardins, qui sera chargé de l'information, et Pierre Bernard, qui a réussi à réunir 2000 disques, seront les artisans de cette antenne. C'est en août 40 que sera lancé le poste national français depuis ce qui sera appelé l'Afrique française libre. L'appui du gouverneur Félix Eboué sera aussi capital.
Vous allez entendre M. Eboué, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Au seuil du sinistre épée de 1940, ce qui nous a révoltés ensemble, ce qu'ensemble nous devions répudier quelques semaines plus tard, c'était à la fois l'injure faite à l'Alliance anglaise et l'acceptation de la défaite. À Forlani comme à Brazzaville, à Bangui ou à Libreville, partout, nous avons désavoué un gouvernement qui effaçait sa signature en bas d'un pacte d'alliance pour laisser le compagnon de lutte seul en face de sa mauvaise chance. Spontanément, les Français proclamaient leur respect à la parole donnée, leur attachement à une amitié solennelle. Que cette loyauté vis-à-vis de l'Alliance anglaise se soit exprimée en Afrique, au cœur de l'Empire, là où l'ancienne rivalité coloniale avait enduré, c'est sans doute un signe. Si nous n'avions pas sous les yeux l'effroyable désarroi de la défaite, nous savions très bien notre géographie et qu'il y avait une Afrique française, des colonies françaises, et que tout cela signifiait quelque chose. L'Afrique française libre au secours de la France.
3 kilowatts. C'est peu, mais le poste de Bruce de l'ex-radio club local ne demande qu'à gagner en puissance. Le 11 novembre, le général de Gaulle y parle, ainsi que le 14 juillet 1941, où il s'adresse aux Américains. Au passage, il fait aussi savoir à Pierre Bernard qu'il aime bien ses disques, mais il demande aussi la diffusion de musique et de chants militaires.
Juin 1943, une date symbolique.
Un émetteur de 50 kW permet d'activer 6 antennes vers l'Europe et le reste du monde, dont les États-Unis.
Vous nous voyez autour de vous, mon général, les anciens et les nouveaux, les Français et les étrangers, unis par un seul idéal. Nous sommes heureux de vous suivre parce que nous savons que la résistance française parle par votre voix. Avec vous, mon général, nous crions aujourd'hui « Vive la France !
Vive la France !»
Voici que la voix libre de Brazzaville devient soudain plus forte et plus claire. La France qui combat va se faire entendre sans entrave, mais non sans mesure, beaucoup mieux et beaucoup plus loin.
La radio, porte-parole du général de Gaulle, envoie des messages très forts contre l'occupant et Pétain et elle soutient très fortement la résistance. Elle mettait aussi en garde contre Radio Alger, radio pétainiste, jusqu'en novembre 1942, puis reprise par des partisans du général Giraud, préféré par les Américains à De Gaulle, qui émet à partir de février 1943, sous le nom de Radio France, la radio de la France en guerre. Brazzaville diffusait 19 bulletins d'information par jour, construits à partir de télégrammes d'agence, avec des commentaires adaptés à la zone de destination.
Brazzaville, poste national français. Au Madagascar, la côte française de Somalie, les îles de la Corée du Pacifique, à Sauve France, au GMT. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane française, à 22h GMT. Pour les États-Unis et le Canada, à 23h GMT. Pour l'Amérique latine, à 24h GMT.
Les émissions se faisaient donc en plusieurs langues, français, anglais, espagnol, italien, portugais. Il y avait de la musique classique, militaire et des variétés françaises et américaines. 19h45, c'était l'heure des informations vers la France avec des messages aux familles. Ici, un bulletin d'information du début de l'année 1944.
Résumé des nouvelles. Nos avant-gardes soviétiques combattent sur la frontière estonienne. Narva est sous le feu des canons soviétiques. En Italie, les troupes françaises et américaines ont enfoncé la ligne Gustav sur un front de plusieurs kilomètres. Des bombardiers lourds américains ont attaqué aujourd'hui des objectifs militaires dans le nord de la France. La nuit dernière, Berlin a été bombardée par les moscitos de la Royal Air Force. Dans le Pacifique, la progression des troupes américaines dans les îles Marshall se poursuit malgré la forte opposition de l'ennemi. La conférence africaine de Brazzaville poursuit ses travaux.
Pour contrer Radio Brazzaville, les Allemands brouillent la réception et créent un poste noir, Radio Brazzaville 2, qui émet depuis les Champs-Élysées. Une radio noire, c'est une fausse radio dont le nom pouvait tromper les auditeurs, comme il y avait eu au début de la guerre, Radio Humanité ou La Voix de la Paix. Ce poste noir sera d'ailleurs surnommé par les Français libres Radio Brazzaville. Pendant le débarquement de Normandie, la radio émet 18h sur 24. Par la suite, Desjardins quittera la direction. C'est la fin de l'époque des pionniers du poste national français et la radio entre dans une autre période de son histoire.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne ? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau.
Ici Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense.
Les girafes ne portent pas de faux col. Je n'aime pas les crêpes Suzette. Grand-mère mange nos bonbons. Andromaque se parfume à la lavande.
Les ondes radio pendant la guerre n'ont pas été que du programme radio. Les émetteurs sur le sol français ont servi à envoyer des messages utiles pour Londres et la coordination de la résistance.
Les résistants qui les réceptionnaient lors de parachutage, les transportaient, les cachaient, les faisaient fonctionner, prenaient de grands risques, alors que les Allemands comptaient sur des dénonciations, la torture des résistants arrêtés ou sur leur système technique de repérage pour mettre fin à leur action. En retour, les réseaux recevaient des informations et des consignes de Londres par les messages codés. Nous nous tournons vers André Tirso et Jacques Chénier.
André Tirso, est-ce que vous pourriez nous raconter des moments de votre vie dans la résistance ?
Vous savez, j'ai commencé... On était tellement tous dans la famille, dans la résistance... qu'on m'a pas demandé mon avis, si vous voulez. On a été pris dans ça, quoi. Et ben, j'ai commencé par, porter des messages à Alençon, à Mortagne, des trucs comme ça, en vélo, ou accompagner des résistants comme Alfred Lambert, à Verton en vélo. Alors lui, il était devant, parce qu'il fallait qu'il se camoufle. Et mon frère et moi, on transportait son revolver et trucs comme ça. On commençait tout doucement. Et puis après, bon, plus ça allait, plus on me demandait de faire des trucs, quoi.
Il faut préciser une petite chose. Dédé appartenait au BOA. Alors le BOA, c'est le Bureau des Opérations Aériennes. Donc ça, c'est un réseau action strictement français. C'est-à-dire qu'à Londres, ils entraient dans le système donc décidé par le général de Gaulle pour appliquer des plans pour la libération. Il y avait donc des avions qui envoyaient du matériel de parachutage, des personnes, de désarmement, etc. Et eux, ils étaient chargés de la réception sur les terrains d'aviation. Il y en avait un à Ciel-Guillaume, il y en a pas très loin d'ici, il y en avait un entre Mont-Saint-Jean et à Selboigne, il y en avait un à Selboigne, donc il y avait des avions, ils recevaient des messages codés. Ils recevaient donc du matériel, leur rôle à eux a consisté à le stocker, ce matériel-là, et à le redistribuer aux paramilitaires de l'armée secrète. Par conséquent, le rôle des agents de liaison consistait à dire, nous avons reçu du matériel, vous allez... Alors, d'aller voir les réseaux paramilitaires, vous allez recevoir telle et telle quantité d'armement ou telle et telle une personne va venir vous voir, etc. Donc, l'agent de liaison lui servait à transporter les informations. Elle n'appartenait pas à l'équipe de réception de parachutage. C'était vraiment cloisonné.
Comment fonctionnaient les messages codés ? Qui était capable d'en comprendre le sens ?
Bah, quand on fait un message codé, seule la personne destinataire, normalement, doit être capable de la coder. En fait, il n'y a jamais eu de code de ce côté-là, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Qu'est-ce qui se passait ? Mais ça ne va pas se faire tout de suite, là. Il faut attendre, si vous voulez, début 1941, parce que les premiers réseaux anglais arrivent en France, c'est le réseau Togiro, c'est un premier réseau SOU, alors là, SOI, donc je ne vais pas parler anglais, surtout à la radio, hein, donc les réseaux Buckmaster, et à partir de ce moment-là, il y a des premiers arrivages d'avions qui se font, donc ils se font à l'aveugle, donc... il y a des écarts, c'est pas précis, il y a des problèmes. Et c'est un Français, Maurice Béguet, qui va avoir l'idée des premiers messages personnels. Pourquoi ne pas faire des messages précis pour informer les groupes de résistance qu'ils vont recevoir quelque chose? Et les fameux messages personnels ont été faits à ce moment-là. C'est les premiers messages codés. Et les messages codés étaient destinés exclusivement aux gens qui allaient recevoir. Donc, il fallait faire en sorte que les messages soient totalement illisibles pour les Allemands. Et ils seront illisibles. Seuls les destinataires savaient, puisque c'était eux qui avaient créé le message, que ça leur était destiné. Mais il n'avait aucun sens. Vous, c'était le Boas mord la queue ou quelque chose comme ça.
Le Boas s'enroule.
Ou le Boas s'enroule. Bon, le Boas, c'est pour BOA, Bureau des Opérations Aériennes. Mais il n'y avait qu'eux qui le savaient. Et alors, on est arrivé à cette espèce de situation drôle où on a vu les Allemands chercher à décoder, donc raisonner comme vous le faites, décoder des messages qui, en fait, n'étaient pas codés. Et ils ont mobilisé des spécialistes pendant très très longtemps pour cela. Et c'est un Français, à l'automne 1941, qui va être l'inventeur de ces fameux messages.
Localement, quel rôle ont joué les liaisons radio dans la résistance et les messages codés sur des actes de sabotage ou des parachutages ?
Alors, là encore, il faut raisonner sur la chronologie. Jusqu'en 1941, il faut bien 1941-1942, ce sont essentiellement les réseaux britanniques qui sont les mieux structurés, qui vont effectivement jouer ce rôle-là. Là, on est véritablement dans une stratégie militaire qui a été décidée par Churchill dès 1940. À partir, on peut dire dans la Sarthe en particulier, à partir de 42, se mettent en place progressivement des structures paramilitaires de mouvements. Alors vous faites la différence entre un réseau et un mouvement. Le réseau, c'est une organisation qui a un objectif d'une durée limitée, et donc qui travaille avec quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui dit voilà ce qu'il faut faire. Un mouvement est parti beaucoup plus tôt, c'est tourne autour d'un journal, donc d'une information, et ils vont se doter progressivement d'un réseau de renseignements et d'un réseau de paramilitaires pour protéger précisément leurs sources. Donc on a deux systèmes. Et à Londres, se met en place progressivement une stratégie en vue de la libération. Cette stratégie, on la verra le jour J, c'est les fameux plans de sabotage, etc. Mais en attendant, eh bien, il faut mettre la pression sur l'ennemi. Et la première chose à faire, c'est perturber eux aussi leur communication. C'est-à-dire couper les lignes souterraines de téléphone, perturber leurs liaisons radio. Il faut savoir qu'une partie des liaisons radio passent par des lignes électriques. Alors je ne sais plus si c'est des hautes fréquences ou des basses fréquences, là par contre, mais il n'empêche que ça passe par des lignes à haute tension. Donc il va y avoir, on va commencer à saboter ces choses-là. Et vont arriver des opérateurs pour apprendre aux gens à saboter. Et dans la Sarthe, on a essentiellement des sabotages qui vont se faire à la SNCF. Alors, c'est des petits sabotages. On coupe les flexibles de frein. On va retirer de l'huile des boîtes à essieux, dans les essieux. On va mettre du sable dedans, par exemple, ou des choses comme ça. C'est des petits sabotages discrets. Puis après, on va commencer à faire sauter les lignes. Ce sera beaucoup plus important. Mais ça se fait véritablement début 43.
Les sanglots longs des violons de l'automne berce mon cœur d'une langueur monotone.
On a du mal à imaginer à l'heure de la télévision, du satellite, d'internet et des réseaux sociaux en quoi les ondes radio ont pu jouer un rôle aussi déterminant dans la résistance face à l'occupant et aux collaborateurs. Ce n'est pas qu'un miracle de la technique, c'est avant tout de l'inventivité, de la détermination, du courage, de l'engagement de la part de celles et ceux qui, en dehors de France, ont pu activer l'espoir de la victoire sur le nazisme, et de celles et ceux en France qui prenaient le risque d'écouter clandestinement les radios de la France libre ou d'envoyer des messages sur les ondes pour renforcer le combat commun.
Pour leur rendre hommage, cette émission a été réalisée par Antoine, Élise, Katharina, Laurine, Marine, William, sous la coordination de Kitty McLaughlin, Laura Gourgan et Laurie Sabat du lycée de Ciel-Guillaume, avec l'aimable concours d'André Thierceau et Jacques Chénier et l'appui technique de Fréquence Signée.
Ici, non. Les Français parlent aux Français. Honneur et patrie.
Clémentine peut se curer les dents.
Le facteur s'est endormi.
C'était les ombres dans la résistance.
Les sanglots longs des violons de l'automne berce mon cœur d'une langueur monotone.